Arrête. You are fake news.
Je suis la corruption.
Fake news.
Je suis la corruption.
Corruption.
On savait que Donald Trump se mêlait absolument de tout. Mais là, il se mêle aussi de la Coupe du Monde de football et d'après nos confrères, certains de nos confrères américains, il est même intervenu pour faire annuler un carton rouge.
Bah, non seulement il est intervenu, mais surtout que la FIFA lui a donné raison. C'est là où est le scandale. Donald Trump a trouvé injuste le carton rouge infligé au meilleur buteur de son équipe, l'équipe des États-Unis, qui affronte en huitième de finale les Diables Rouges, la Belgique. Et donc, il a passé un petit coup de fil au président de la FIFA, monsieur Infantino, et la FIFA lui a donné raison. Alors, la FIFA a trouvé un article dans son règlement, l'article 27 du règlement de la commission de discipline de la FIFA, qui permet de suspendre le carton rouge infligé au joueur américain. Et donc, ce joueur, qui est important dans l'équipe, va pouvoir jouer. Alors, bien sûr, les Belges crient au scandale. La Fédération belge de football a fait appel de cette décision. On est quand même dans un fait de corruption visible par tous, d'une ingérence incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que une fois pour toutes, on a un problème avec cette Coupe du Monde et l'arbitrage?
Didier, moi je crois que dans cette Coupe du Monde, on a d'abord et avant tout un problème avec la gouvernance de la Coupe du Monde. Quand tu regardes les affaires, comment a été traitée l'équipe de l'Iran, l'arbitre somalien, je crois, ou éthiopien, somalien. Somalien, qui est un des meilleurs arbitres, qui est le meilleur arbitre de la conférence africaine.
Meilleur que l'arbitre ouzbek, par exemple.
Qui s'est fait jarter comme un malpropre. Et la FIFA n'a pas réagi. Donc, à un moment donné, moi, je comprends qu'un État est souverain et qu'il y a les règles de l'État. Sauf que là, tu te demandes si Donald Trump, c'est pas le Donald qui est évadé de Marne-la-Vallée. Et si Elefantino, il a pas un peu craqué.
Infantino.
Oui, mais Elefantino, quoi, du coup, hein. S'il a pas un peu craqué, et s'il doit quand même dire amen à tout en termes d'ingérence. Parce que tu dénatures la Coupe du Monde, quoi. Mmh. Tu dénatures le résultat sportif. Il se trouve que Balogun, il a pris un carton rouge. Balogun, en plus, on le connaît bien.
Il joue à Monaco,
donc c'est plutôt un bon joueur. Mmh. Il était censé être suspendu pour le match suivant. Et du coup, par cette intervention, il est requalifié. Donc, moi je serais belge. Je crierais au scandale.
Ils ont fait appel, hein.
Mais est-ce que tout le monde doit pas crier au scandale? Parce que les Belges, ils sont directement concernés, mais est-ce qu'ils devraient pas avoir une levée de bouclier?
Parce que du coup, à ce moment-là, moi, je demande à Emmanuel Macron de se dépêcher d'appeler Infantino, et puis de
faire annuler le carton jaune d'Olysée.
Bah, les trois, hein.
Scandale.
Annuler les trois cartons jaunes, vu comment on a été arbitré vendredi, à un moment donné, tu te dis pourquoi
Parce que moi, j'ai
regardé la vidéo, j'avais pas vu le match, je viens de regarder la vidéo, enfin Balogun, il le mérite quasiment, hein, son carton rouge. Hein. Il fait une faute, il mérite un carton rouge.
Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment la fédération qui dirige la plus grande compétition au monde. La plus grande compétition au monde,
ça
quand
peut
même.
Ça peut être les JO, quand même.
Oui, oui, mais bon, je veux dire, il y a match,
ouais,
comme on dit. Voilà. Arrive autant à se soumettre et à se plier
aux États.
À un État, parce qu'en fait, cette Coupe du Monde, elle est quand même.
Il y en a d'autres.
Il y a 4 ans, on a fait une Coupe du Monde au Qatar, sur des tas de cadavres pour construire les stades.
Oui, je sais, mais je parle de cette Coupe du Monde. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est organisée par 3 États. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, arrive à se soumettre à autant à un seul des 3 États. Cette Coupe du Monde, il faut dire la vérité, elle est avant tout américaine, états-unienne. Quand tu regardes comment est organisée la Coupe du Monde, quand tu regardes les pauses, les soi-disant pauses fraîcheurs qui sont des pauses pubs, mm-hmm. quand tu regardes l'hymne, mais qu'est-ce que foutait, excuse-moi, l'hymne américain, j'accorde, c'était le jour de l'indépendance, mais sur un match où les États-Unis ne jouaient pas, par exemple, qu'est-ce que ça foutait toute cette grandiloquence américaine à l'entrée de, je ne sais plus c'était quel match, mais en tout cas c'était pas les États-Unis qui étaient impliqués, voilà. Enfin, cette Coupe du Monde est américaine, soit, mais je veux dire, il y a des limites à la soumission. Là, la FIFA, qui est une énorme organisation, peut pas accepter ça. Et c'est vrai, il n'y a pas que la Belgique qui devrait se soulever contre ça. En fait, tous
la
les
France
pays.
Aussi devrait...
tout, mais bien sûr, mais tous les pays devraient se soulever contre ça.
En plus, je crois que Infantino avait même décerné le prix de FIFA de la paix à Donald Trump. Non, en décembre dernier, lors d'une remise de prix de trophée solennel.
Souvenons-nous qu'Infantino a tout fait pour écarter Michel Platini de cette présidence. Parce que si on refait un peu l'histoire, qui aurait dû être président de la FIFA, c'était Michel Platini. Et on a inventé une affaire de toutes pièces. D'ailleurs, Platini a obtenu des années après gain de cause et a pu prouver son innocence. Mais Infantino était dans l'histoire.
Hein. L'UEFA devrait ouvrir sa bouche. Hein. Moi, je suis désolé, il n'y a pas à faire ça. Surtout que quand tu vois comment a été arbitré le match là contre la France, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, ça, c'est pas des erreurs d'arbitrage. Là, on est sur quelque chose. Je me suis dit, mais il a été payé. C'est impossible, en fait, ce qui s'est passé là. Donc, il y a ça. Plus après ce carton rouge annulé, t'as quand même l'impression, t'as une grosse odeur de corruption qui vient quand même planer sur le reste de la compétition.
Alors,
donc,
ça, c'est déjà arrivé.
Moi, j'espère que ça va pas se faire.
C'est pas la première fois.
Les Argentins sont champions du monde en 78. Voilà, on peut se poser la question comment ils ont fait.
Quand l'équipe de rugby d'Afrique du Sud gagne.
L'équipe de
également
rugby d'Afrique du Sud.
C'est, en Afrique du Sud, devant Mandela.
Enfin, le sport aujourd'hui, c'est de la géopolitique. Hein. Et tu peux t'interroger sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais du coup, continuer les Américains dans leur parcours, parce que là.
Mais là, on parle de Trump.
Peut-être demain, ils seront en quart. Tu dis jusqu'où ça peut aller cette histoire-là et tu peux te poser des questions.
Mais tu as Trump qui a parlé, tu as Rubio aussi qui s'est exprimé en disant que les Américains se sont fait entuber, que c'était pas normal et qu'il fallait réfléchir. Monsieur Maître Consigny, Charles Consigny.
Je vous avoue n'avoir pas suivi ce dossier comme le lait sur le feu. Néanmoins, le président Trump étant un homme plein de sagesse, s'il a décidé de faire annuler ce carton rouge, c'est qu'il avait ses raisons. Et je vous demande de vous y conformer. Pas au nom de quoi nous ticurions une décision Trump. Vous dire, je ne suis pas au courant de cette Coupe du Monde. Elle se déroule aux États-Unis, par exemple. Je ne sais pas.
Que fait-on pendant cette Coupe du Monde? Que se passe-t-il? À quoi joue-t-on pendant cette Coupe du Monde? Quel est le sport?
De toute façon, les Américains ne gagnent jamais la Coupe du Monde de foot.
Ils n'ont pas
d'inquiétude à avoir.
Mais
c'est les Bleus qui vont la gagner.
Non, mais il y a un problème.
On m'a dit soit les Espagnols, soit les Français.
Non, mais Charles, il y a un problème. Alors, à la limite que Trump trouve ça injuste, mais on peut toujours trouver injuste un carton jaune, un carton rouge, un pénalty qui n'a pas été sifflé, ça fait partie du jeu. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une instance comme la FIFA qui dégage, alors qui brasse énormément d'argent, hein, on parle de plusieurs milliards d'euros de bénéfices,
c'est un état
dans l'état, mais c'est un état faible, qui suffit d'un coup de fil pour que le président de la FIFA
Ça, c'est parce que c'est dirigeant.
Trump et les États-Unis ne sont pas connus pour leur grand amour du football et leur connaissance des règles. Donc quand Trump dit je trouve ça injuste,
je crois que Donald Trump n'est pas connu d'une manière générale pour la connaissance des règles.
Des règles et de ce sport en particulier. Donc quand il dit je trouve ça injuste, il faudrait déjà savoir si il connaît ce qui est juste dans ce sport.
Les Américains peuvent gagner la coupe.
Trump ne rend pas service à son équipe. Parce que tout le monde sera pour la Belgique
et que le prochain arbitre, s'il est un peu intègre et qu'il a pas des consignes, il va les avoir à l'œil.
Et puis surtout les États-Unis, s'ils gagnent, forcément, ça sera toujours entaché de cette.
Où ont lieu les matchs?
Dans des stades.
Non, mais
alors un stade, tu vois ce que c'est un stade?
Il y a trois pays qui organisent les États-Unis.
Mais bientôt plus qu'un.
Les matchs sont essentiellement aux États-Unis. Il y a le Mexique et le Canada. Et par exemple, nous, l'équipe de France, on joue à l'est, New York, Boston.
Et Trump, je sais pas où ça en est aussi.
Le dégagement, c'est pas favorable.
Parce que c'est Trump qui voulait remettre. Tu sais, Trump voulait remettre lui-même le trophée de la Coupe du Monde au vainqueur de la Coupe du Monde.
Ce qui
n'est pas d'usage.
Je crois que c'est dans les tuyaux, ça.
Et ça aussi,
il remettra la Coupe à la France, peut-être.
Donc, je te rappelle que c'est lui qui a fait le tirage.
Oui, c'est vrai. C'est lui qui s'est vu décerner le prix de la paix par la Fédération internationale de
football. Il a bien compris qu'une Coupe du Monde, c'était un objet de communication.
Qu'est-ce qui différencie ces pratiques de Kim Jong-un? Bien sûr, on décerne le prix. Bientôt, on va le couronner empereur. Tu vas voir. Attends, bientôt, il va demander à être couronné empereur et puis on va le couronner empereur. On va
le prix Nobel de la paix.
À un moment, faut arrêter, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est
il a son arc
gros.
De son nouvel arc de triomphe.
C'est tellement gros.
C'est surtout la fédération qui devrait pas.
Non, mais c'est ça en fait.
C'est ça qui est curieux.
En fait, c'est même pas la fédération parce que la fédération internationale, elle a pu être forte des fois, mais c'est ses dirigeants. du moment qui sont pas forts.
Elle n'a jamais été forte, la FIFA.
Alors, elle faut voir. Alors,
elle est, tu sais, elle est forte, elle est faible, elle est faible.
Du coup,
fort,
là, oui, avec cette histoire d'annulation de carton rouge qui est vraiment exceptionnelle, d'ici la fin de la compétition, tout le monde va déposer un dossier. Si tu veux, nous, on peut le déposer, faire un appel.
Nous, on a trois cartons jaunes qui sont embêtants parce que s'ils en prennent un au match suivant, ils jouent
la demi-finale. Celui d'Olysée. Donc, si tu veux, les instances françaises où, effectivement, Macron doit dire, et moi, je veux qu'à ce qu'on lève les cartons jaunes injustes.
Surtout que celui d'Olysée, il n'y a rien, quoi.
Donc
il est juste, c'est l'histoire du football, des pénalités.
Bon,
mais il faut l'accepter, ça fait partie des règles, voilà.
Non, mais
il paraît que les Paraguayens ont été odieux.
On va dire que peut-être jouer en notre faveur aussi, parce que du coup, s'ils maintiennent l'annulation du carton rouge, et ben à ce moment-là, peut-être qu'ils vont être très cléments sur nos cartons jaunes à nous. Pour masquer un peu la corruption.
C'est fait.
Ah ouais, tu crois pas.
D'une manière générale, il y a un problème avec l'arbitrage dans ce mondial.
Non, mais ça, c'est trop facile.
L'arbitre ouzbek.
Non, mais c'est trop facile.
L'arbitre ouzbek.
Tu l'as déjà pris le sifflet, prends le sifflet.
Non, mais l'arbitre ouzbek, il faut qu'il change de métier, pardon.
Non, ce qui est invraisemblable, c'est que le match France-Paraguay, vu le nombre de fautes de part et d'autre, et puis d'abord de la part des Paraguayens qui cherchent à faire disjoncter les Français, c'est pas normal que toi t'en prennes 3 et eux 0.
C'est ce que
voilà.
Je dis.
Et puis il y a des actions où dans le quart de la VAR, on doit appeler l'arbitre pour lui dire là il y a rien ou là il y a quelque chose.
On va conclure avec Vincent. Vincent, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de l'intervention de Trump, Vincent?
Le problème, c'est que l'intervention de Trump, bon, en soi, tu peux le comprendre. On peut le comprendre sur le carton rouge, parce que bon, quand on est en début de compétition, ce qui s'est passé avec Messi, qui fait une faute largement plus grave sur un Algérien, qui est même a posteriori, il n'est même pas sanctionné, alors que les règles de la FIFA ont déjà bien plus sanctionné des joueurs pour des fautes beaucoup moins graves que celle-là. Je peux comprendre que il y a des interventions, et vous le dites, la Fédé française actuellement, elle est en train de se poser la question sur les cartons jaunes, de porter réclamation pour justement éviter contre le Maroc une suspension d'un joueur en demi-finale. En cas de qualification. Donc, l'intervention de Trump, en soi, que ce soit le président qui intervienne, c'est grotesque, mais que la sanction soit levée, il n'y a rien d'incohérent par rapport au début du mondial où l'arbitrage est carrément mauvais.
Ah oui, mais alors, dans ce cas-là, on remet toutes les décisions arbitrales. Alors là, du coup, on passe tout le temps, notre temps à dire qu'il faut respecter l'arbitre, même quand la décision paraît injuste. Là, on ne respecte plus rien.
Parce que, sur France-Paraguay, je ne veux pas être méchant, j'ai eu l'impression de regarder plus un match de district. Comme match de Coupe du Monde.
Ah bon, parce que l'arbitrage,
c'est l'arbitre qui a laissé faire.
L'arbitre n'est pas sanctionné.
Non, mais l'arbitre,
là, je suis désolé, l'arbitre
que les Paraguayens fassent ce qu'ils ont fait, c'est pas grave, c'est l'arbitre qui laisse faire.
L'arbitre est mauvais, excuse-moi, tu disais, t'as pas pris le sifflet. On a le droit de dire quand un arbitre est mauvais qu'il est mauvais.
C'est pas ça,
quand un joueur de foot est mauvais,
à un moment donné,
c'est pour l'arbitre.
Vous avez à la face du monde tout ce que provoque l'égalitarisme. C'est qu'à un moment donné, quand tu prends des gens de tous les continents pour arbitrer la multitude de matchs qu'il y a, tout le monde n'est pas bon, mais il faut la parité dans les pays, les continents représentés, et à un moment donné, tu peux pas avoir que les meilleurs arbitres. Alors de plus en plus, avec le nombre de matchs qui diminue, on aura les meilleurs arbitres, mais je pense que ça nivelle par rapport à l'uniformité.
Si pas d'arbitre ouzbek,
Vincent, on va voir ce que décident aussi les instances françaises, Vincent, si elles déposent des recours contre les cartons jaunes et en particulier celui de Michael Olysée. Merci d'avoir été avec nous, Vincent. Bonne journée. Si vous voulez continuer d'écouter, de commenter le foot, il y a une radio qui le fait très bien, c'est RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde. À partir de 15h jusqu'à plus d'heures, vous retrouvez toute l'actualité, bien sûr, du football, de la Coupe du Monde et du Tour de France aussi. Allez, dans un instant, des aveux. Ceux de Cédric Jubilard, il a craqué visiblement Cédric Jubilard, ses conditions de détention, la stratégie aussi de son avocat. Cédric Jubilard avoue le meurtre de sa femme et on en parle ensemble au 32-16 avec vous bien sûr. Il est 9h20, vous êtes avec les grandes gueules sur RMC et RMC Story, Didier Giraud, Charles Consigny, Joël Dagosséry. Les GG, les grandes gueules, c'est avec vous en direct sur RMC et RMC Story. Vous venez prendre la parole au 32-16, bien sûr, pour discuter, pour débattre. Aujourd'hui, notre trio de GG, Joël Dagosséry, la coach de vie, Didier Giraud, l'agriculteur, et Charles Consigny, l'avocat. Le coup de théâtre judiciaire du jour, ce sont nos confrères du Midi Libre qui l'ont révélé. Ce sont les aveux de Cédric Jubilard, qui a reconnu avoir tué son épouse Delphine. C'était le mystère depuis la fin de l'année 2020. « incroyable. Alors que son procès en appel arrive, Cédric Jubilard s'est confié à ses avocats dans un courrier. Il leur a dit « Oui, je reconnais avoir tué ma femme Delphine ».
C'est la fin du mystère. Jubilard a reconnu sa responsabilité dans la disparition de son épouse. C'était cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020, à leur domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Il a écrit à ses avocats et dans cette lettre, il explique effectivement qu'il y a eu une dispute entre les deux et que ce soir-là, il a tué Delphine. Alors, on ne sait pas précisément comment il l'a tué. On ne sait pas précisément où est le corps. Donc, ses avocats nous expliquent que c'est Jubilard s'exprimera, il va parler aux enquêteurs, il va dire précisément ce qui s'est passé. En tout cas, c'est la fin du mystère. Il avait changé d'avocat. Rappelons qu'il a été condamné à 30 ans de prison en première instance, qu'il avait fait appel. Le procès en appel devait se dérouler en septembre. Il avait changé d'avocat, il avait pris les Dubuisson père et fils. Et visiblement, ce nouvel avocat, Pierre Dubuisson, a réussi à le faire parler. Alors après, on nous présente un Cédric Jubilard qui depuis 5 ans à l'isolement en prison, qui n'est pas très très bien, il souffre de ses conditions de détention, il prend beaucoup de médicaments et peut-être qu'affaibli, il a voulu soulager sa conscience et désormais il voudrait une sépulture pour son épouse.
Qu'est-ce que vous en dites 32-16 pour en parler avec G. Bravo les avocats, Maître Consigny, Charles Consigny.
Parfois, il y a des affaires dans lesquelles il vaut mieux avouer le meurtre, le crime, quand les éléments sont trop accablants. En l'occurrence, de ce qu'on sait de ce procès, de cette affaire, il y avait quand même un certain nombre d'éléments à charge, en tout cas suffisamment pour qu'il soit condamné à 30 ans de prison en première instance. Dans l'espoir aussi d'améliorer son sort en appel. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans le secret de son esprit à ce monsieur. Mais je pense que la cour d'assises, c'est aussi un moment de vérité un peu. Il faut que les jurés ont une décision à prendre, une décision très lourde, puisqu'elles peuvent aussi bien envoyer quelqu'un en prison pendant plusieurs décennies que, au contraire, l'acquitter purement et simplement. Si il est coupable, évidemment, c'est une décision lourde aussi.
Mais le fait qu'il ait reconnu sa culpabilité...
Moi, je pense que ça change les choses.
Il a pris 30 ans en première instance, est-ce qu'il pourrait prendre un peu moins, parce que justement, vis-à-vis de ses enfants...
En tout cas, je pense que...
Il avoue enfin la vérité.
Si ses avocats ont fait ce choix, c'est qu'il n'était pas acquittable. Non. Et d'ailleurs, je me souviens, pour avoir suivi le procès en première instance... ses avocats se débattaient comme de juste pour essayer d'avoir son acquittement, mais je trouvais que ça sonnait faux. Et aux assises, il faut que ça sonne vrai. On peut pas dans des affaires avec des enjeux pareils avoir une partition qui sonne faux, ça marche pas. Donc je pense que en tout cas, s'il doit nourrir le moindre espoir d'améliorer un tout petit peu son sort, c'est comme ça qu'il peut le faire. Et ensuite, c'est aussi, je pense,
l'améliorer ou l'aggraver, parce que pendant 6 ans, il s'est muré dans le silence.
Non, je pense. Quand on a pris 30 ans, sauf à prendre perpète.
Bon. Comment tu peux l'améliorer en appel derrière?
Je pense que c'est aussi, d'une certaine manière, même si je suis pas dans son esprit, c'est une marque aussi de respect pour les proches de sa victime. C'est une manière
d'avouer.
C'est ce
qu'il dit, je vais offrir une sépulture à la mère de mes enfants.
Ça peut être quand même...
D'aller en pénitence.
Il a bon cœur, finalement.
Non, mais c'est pas ce qui sera considéré.
Sans aller jusque-là.
Mais voilà, moi je... On sait pas pourquoi quelqu'un avoue. De la même manière, on a parfois des dossiers dans lesquels on comprend pas pourquoi quelqu'un nie... jusqu'au l'évidence. Bout, quand vraiment l'évidence est là. Et parfois, c'est très difficile de défendre quelqu'un contre l'évidence.
Joël Dagosséry.
Félicitations à son avocat ou ses avocats qui sont, à mon avis, des femmes psychologues, parce que j'imagine.
Parfois, on se bat pour que la...
J'imagine qu'il ne faut pas juste connaître le droit, il faut aussi pouvoir maîtriser la psychologie humaine et la psychologie de son client. Donc félicitations à eux. Ceci dit, voilà, enfin les arguments qu'il avance d'offrir une sépulture à son épouse et peut-être calmer aussi l'esprit de ses enfants. Enfin, je veux dire, ça me ça me fait pas le, ça me le rend pas plus sympathique. Mm-hmm. Je veux dire, je le déteste tout autant. Désolée de dire ça, mais une femme qui a voulu juste se séparer, en fait, bah malheureusement, ça arrive dans les couples, ça arrive dans la vie de vouloir et qui ne le supporte pas au point de la tuer, d'enlever la vie à la mère de ses enfants. Enfin, je veux dire, mais qui pourrisse. Enfin, j'espère que effectivement, je comprends la démarche et la cour d'assises qui pourrait peut-être être plus clémente. Mais je l'espère. J'espère que non, parce qu'en fait, ça c'est quand même 6 ans de mensonges. D'autant plus pour un truc. Là, on nous dit que c'est un mystère qui est levé, mais je pense qu'il y a énormément de personnes dans la population qui se disaient déjà que c'était lui. Enfin, je veux dire, il y a pas cette femme n'a pas ni été tuée par son amant, n'a pas disparu
avec son enfant. Barbara tenait une thèse inverse.
Franchement,
c'est original.
Franchement, non. Donc voilà. Enfin, j'ai rien à dire d'autre. J'espère qu'il continuera, qu'il reprendra 30 ans malgré ses aveux.
Puis les enquêteurs, il faut saluer le travail des enquêteurs qui, depuis le début, avaient quand même... ils avaient vu juste, ils avaient tracé le parcours, montré les heures, les incohérences.
Ils avaient dit que la voiture avait été utilisée pour transporter son corps. Donc c'est, lui, il dit, dans la lettre, il dit qu'il a bien utilisé cette fameuse Peugeot pour déplacer le corps de sa femme.
Monsieur Didier Giraud.
C'est pas où encore.
Ôte-moi d'un doute, Charles, en appel, il y a aussi des jurés populaires.
Oui, bien sûr. Ouais, il y en a même un peu plus.
Moi, tu vois, pour moi, ça change rien. Ça change rien. Moi, j'ai été juré populaire et en assise. Et je peux te dire qu'à un moment donné, ce qui guide les gens pour la peine, c'est protéger la société, en fait. C'est le risque de récidive, protéger la société. Et là, les jurés en première instance, ils lui avaient mis 30 ans. Donc, à un moment donné, pour eux, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur sa culpabilité. Et pour moi, les aveux ne changent rien. Ne changent rien dans le fait d'adoucir une peine. Quand t'es tout seul dans la petite salle à côté, puis que tu dois écrire un nombre d'années sur ton papier... T'as dans la tête, à un moment donné, de te dire, c'est la question qu'on te pose, as-tu l'intime conviction de sa culpabilité? Et si oui, t'es motivé par le fait de vouloir protéger la société de ce mec-là. Donc, tu lui mets tout ce que tu peux lui mettre. Et je pense que les aveux, pour moi, ça n'adoucira pas la peine, voire même ça peut renforcer un peu un sentiment d'injustice, de la part des jurés. Dans la mesure où il s'est arc-bouté à nier l'évidence, quoi.
Oui, mais ça peut soulager.
L'histoire de la sépulture, non.
Non, mais ça peut soulager en revanche ses proches.
C'est du pipeau, ça. C'est du pipeau.
Ça peut soulager ses profs.
Ah, oui. Ça, je veux bien l'entendre. Je veux bien l'entendre que pour les parents de Delphine, ça doit changer les choses.
Ses enfants, de savoir
où. Ça doit changer les choses.
Ça permet aussi d'enterrer.
Pour le juré.
D'enterrer leur mère, ça permet aussi de.
Mais non, mais ça je l'entends. Non, mais ça, j'entends que c'est un élément qui peut être essentiel dans la reconstruction des victimes, en fait.
La famille, c'est essentiel quand même.
C'est la reconstruction des victimes, en fait.
C'est pas pour ça, à mon avis, que les enfants partent dans l'enfer, mais au moins...
Non, mais c'est pas ça, mais ceux qui tiennent le crayon en appel, c'est des jurés populaires qui sont des gens comme toi et moi. Et à un moment donné, eux...
Oui, mais les avocats
eux, ça leur ces aveux, ça leur adoucit rien.
Les avocats, Charles, ils vont jouer là-dessus, ils vont dire, voyez, il était enfermé dans un mensonge,
oui, bien
il
sûr.
A trompé tout le monde, finalement, il s'est rendu à la raison, il avoue, parce qu'il veut que, pour ses enfants, que les choses soient plus claires, ça peut jouer quand même. On aura un regard
différent. Ça joue à combien d'années
que lui, c'est une manière de faire un pas vers la société,
voilà.
Mais honnêtement... c'est pas non plus comme ça que on passe de 30 ans à 5 ans de prison. Hein, il va, c'est une manière quand même de faire un pas vers les.
Est-ce qu'il y a des conditions de détention moins strictes parce qu'il est à l'isolement?
Il est à l'isolement, il a la lumière allumée, je crois, quasiment tout le temps.
Je comprends pas pourquoi il est à l'isolement.
Bah, par ailleurs. Personnage médiatisé, parce qu'il avait parlé à son codétenu.
Oui, oui, mais la lumière allumée tout le temps, etc., oui. Je ne sais pas.
Il est en manque de sommeil, il est sous médicaments, donc psychologiquement, il a craqué, ouais, Joël.
Mais il me semble qu'il avait parlé du meurtre de sa femme à une copine, une petite copine, non
qu'il, Il disait qu'il allait la tuer, de mémoire.
Oui. Ah oui, c'est ça, d'accord. Oui,
il menaçait
il disait au préalable qu'il allait la tuer.
Ouais, Hervé, bonjour.
Bonjour Olivier.
Bienvenue Hervé de Montreuil, bonjour, manager en restauration. Les aveux de Jubilard, on se dit enfin.
Et oui, on va enfin connaître. Parce que tous mettaient contre lui au niveau de l'enquête et tout ça, mais pas de preuves, pas d'armes de pas de corps, pas d'armes de crime. C'était assez compliqué à comprendre cette histoire. Maintenant, est-ce qu'on ne l'aurait pas mis un peu à l'isolement, compliqué les conditions de détention pour
le faire craquer,
le faire craquer, voilà, et lui dire bah, voilà,
et ça vous choque,
ça vaut, ça va.
Et du coup, ça a marché.
Et ça vous choque. C'est un prix 6 ans, remarquez, hein, mais.
En théorie, on n'a pas le droit de faire ça, je pense, mais c'est ce qui nous différencie un peu des États-Unis, où je pense que là-bas, bah, pas d'armes du crime, pas de corps. Je suis pas sûr qu'il aurait été condamné à 30 ans de prison, même juste sur des preuves significatives. Mais voilà, c'est chacun sa justice.
Mais attendez, Hervé, je comprends pas. D'avoir mis à l'isolement dans des conditions rudes, vous, ça vous choque ?
C'est pour faire craquer, oui. Maintenant, je pense que le juge avait ses raisons. À la prison, pareil, il devait avoir leur raison. Est-ce que c'est normal ? J'en sais rien. Pour moi, il y avait tout qui le rendait coupable. Maintenant, pas d'arme du crime, pas de corps.
Donc ça veut dire que Hervé, vous ne croyez pas à sa culpabilité ?
Jusqu'à ce qu'il avoue, vous ne croyez pas à sa culpabilité, quoi, en fait.
Jusqu'à avoir la preuve concrète ou ses aveux, je lui donnais une part de non-culpabilité, oui.
Il y avait un mystère, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Mystère, oui, mais c'est marrant parce que c'est intéressant le rôle de l'avocat, parce qu'on dit souvent que l'avocat, enfin, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi l'avocat défend le criminel. Il dit c'est quand même, il défend quelque chose que tout le monde juge insupportable. Là, l'avocat continue à défendre quand même son client, mais le fait avouer. C'est ça qui est intéressant.
Mais encore une fois, il y a beaucoup de dossiers dans lesquels la défense de quelqu'un passe parfois par ses aveux. Oui. Parce que c'est une manière de casser, si vous voulez, une espèce d'écran qui existe entre l'accusé et la justice, que ce soit les jurés, les juges, etc. Et a fortiori, avec des jurés populaires qui traitent pas ça comme un dossier, alors je dis pas que les juges traitent comme un dossier, mais les juges, ils font ça toute la journée. Ouais. Un jury populaire, il est vraiment en quête de vérité. Il a besoin d'avoir du vrai en face de lui. Donc moi
Parce qu'il a une affaire dans sa vie.
Je pense que c'est pas une mauvaise démarche, et encore une fois, j'ai eu très souvent des cas où on se bat et on n'y arrive
pas toujours. Le gars a tenu 6 ans, il s'est muré.
Parfois on explique aux gens pendant 6 ans.
On commence ce matin, mais moi j'attends l'étape d'après, les gars,
c'est-à-dire le corps.
Non, c'est quand il va se rétracter.
Bah non.
Non.
Bah
non,
on verra.
Voilà, il a écrit une lettre.
Joël, merci Hervé d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules.
Non, mais effectivement, il a subi des conditions de détention.
Même à Charles.
Il peut se rétracter.
Allez, on parie.
J'ai avoué sous la pression.
Si les avocats, quand ils reçoivent le dossier en l'état, donc lui, il niait le meurtre de sa femme, si les avocats se sentent incapables de défendre, enfin, vraiment, quand je dis incapables, dans le sens où ils regardent la thèse et les éléments, ils se disent, mais ça, c'est pas défendable. Et donc, est-ce que ça pousse les avocats à orienter, entre guillemets, les aveux ou pousser
Il y avait peu de chances qu'ils soient relaxés en appel.
Parfois, si vous voulez, parfois, très souvent, on arrive sur une ligne de crête. Je me souviens, par exemple, cette ligne qui avait été assez bien tenue par ma consoeur Jacqueline Lafont en défense de Nicolas Zepeda. Vous vous souvenez, ce Chilien qui avait tué une jeune femme japonaise à Besançon. On n'avait jamais retrouvé le corps, mais vraiment tout accablait, y compris la vidéosurveillance. Bon. Mais lui ne voulait absolument pas reconnaître ce crime. Il était totalement muré, arc-bouté à ne pas reconnaître ce crime. Sa peine a été aggravée, je crois, en appel. Et Jacqueline Lafont, son avocate, avait tenu une espèce de ligne de crête où, sans avouer à la place de son client, elle avait essayé d'expliquer les ressorts psychologiques qui faisaient qu'il n'était pas en mesure d'avouer un truc pareil. Et résultat, il avait quand même pris 28 ans de prison, mais sans période de sûreté, ce qui veut dire qu'il était, entre guillemets, aménageable à la moitié de sa peine, etc. Et donc, c'était une ligne de crête que parfois l'avocat tient dans ce type de situations qui sont très compliquées.
Donc, ça veut dire qu'avec les aveux obtenus par son avocat va faire baisser sa peine, va essayer de faire baisser sa peine.
Maintenant, c'est la deuxième étape importante, c'est qu'ils disent où est le corps et que le corps soit retrouvé.